أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc on s'est arrêté la dernière fois sur la préparation et l'organisation de l'armée à Médine. On avait bien dit que le professeur Sam avait reçu la lettre secrète de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib un samedi, et que pendant une semaine il a consulté ses compagnons, et qu'on est au vendredi après le samedi, et que la majorité de ses compagnons préféraient aller à la rencontre de cette armée qui arrivait droit sur Médine, alors que le professeur Sallam avait proposé dans un premier temps de recevoir cette armée à Médine et de préparer la ville de Médine à être assiégée. Mais finalement, le professeur Sallam s'est rangé du côté de la majorité des compagnons. Et ça, c'est la sagesse aussi du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Il a consulté qui ? Il a consulté ceux qui seront là sur le champ de bataille. Donc s'il leur impose aussi un avis auquel ils ne sont pas convaincus et pour lequel ils ne seront pas motivés, ça peut avoir de mauvaises conséquences. Et donc en tant que leader, le professeur Salem a très probablement pris ça en compte. Donc, par la suite, le prophète s'est organisé, il a organisé l'armée. Donc pour partir de Médine ce vendredi-là, le prophète a divisé l'armée en trois bataillons, comme on l'a dit la fois dernière. Un bataillon qui était composé par les Muhajiroun, un bataillon qui était composé des Aous, et un bataillon qui était composé des Khazraj, compagnons de Médine. Et à la tête de ces trois bataillons, il a mis trois compagnons différents, évidemment. Le premier, c'était Mus'ab ibn Umayr. On avait expliqué, rappelé qui était Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, un compagnon de la Mecque, le premier à avoir émigré à Médine et le premier à avoir été ambassadeur à Médine pour enseigner, pour faire la da'wah à Médine, etc. Le second, c'était un compagnon de Médine qui était à la tête du deuxième bataillon. C'était Usayd ibn Hudayr, radiallahu anhu. Usayd ibn Hudayr, il va être convertir. Lui, justement, on a expliqué qu'il va se convertir par la cause de Mus'ab ibn Umayr. Alors qu'à la base, il était venu pour le châtier, pour le sanctionner, le punir parce qu'il faisait de da'wah dans la ville. Et finalement, alors qu'il vient pour le châtier et le punir, finalement, il se convertit à l'islam. Alhamdulillah. Et le troisième, c'est Al-Hubab ibn al-Mundhir, radiyallahu anhu. Et on a dit à propos de Al-Hubab ibn al-Mundhir un certain nombre de choses, et on avait surtout mis l'accent sur le fait que déjà on a eu affaire à ce compagnon pendant la bataille de Badr, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de s'installer à un endroit, et qu'il avait donné son avis en disant: si c'est pas une révélation qu'il faut se mettre ici, je pense que il y a un meilleur endroit plus stratégique pour la bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait suivi l'avis de Al-Hubab ibn al-Mundhir, radiyallahu anhu. Ce qu'on n'avait pas dit la fois dernière sur Al-Hubab ibn al-Mundhir, c'est que c'était aussi un grand poète. Un grand poète qui a laissé des rimes et des poésies qui font l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des musulmans, etc. Parmi les rimes les plus connues de Al-Hubab ibn al-Mundhir, c'est « Alam ta'lama lillahi darru abikuma wa man nasu illa akmahu wa basiru » أن وأعداء النبي محمد أسود لها في العالمين زئير. آوينا ونصرنا النبي وما له سوانا من أهل الملتين نصير. Ce qui veut dire, ألم تعلم لله در أبيكما وما الناس إلا أكمه وبصير. ألم تعلم, ne savez-vous donc pas. Ici, le verbe est conjugué au duel. ألم تعلم, comme s'il s'adresse à deux personnes. Il dit, oh vous deux, ne savez-vous pas, لله در أبيكما وما الناس إلا أكمه وبصير. Ne savez-vous vraiment pas, alors que les gens sont composés soit de gens clairvoyants qui voient, ou de gens aveugles qui ne voient pas. Ne savez-vous pas, alors que parmi les gens, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. C'est ce qu'il veut dire. Ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Anna wa a'da an-nabi Muhammadi usudun laha fil alamin zairu. Nous, ô ennemis de Muhammad, nous sommes des lions dans l'univers, fil alamin laha zairu, qui ont des rugissements. Nous, on est qui? On va vous apprendre, on est qui? Il s'adresse yani aux idolâtres, aux ennemis de l'époque, les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, ne savez-vous donc pas que nous, vous voyez pas, vous êtes aveugles, on est comme des lions dans l'univers et qui font résonner l'univers de leur rugissement. Nasarna awayna wa nasarna an-nabiyya wa ma lahu siwana min ahli al-millatayn nasir. Nous avons secouru et donné refuge, nasarna wa awayna an-nabiyya wa ma lahu. Et il n'a pas, siwana, il n'a pas eu d'autre à part nous, min ahli al-millatayn nasir. Entre les deux nations, entre les deux religions, entre eux et les autres, il n'y a eu personne d'autre pour lui donner refuge et le secourir à part nous. Et ahli al-millatayn peut faire référence aux hommes et aux djinns, en fait. Entre les deux camps, les hommes et les djinns. Parmi les hommes et les djinns, il n'y a personne qui a donné secours et refuge au prophète comme nous, les Médinois, puisque le Hubab ibn al-Mundir, c'est un Médinois, et ils ont donné refuge aux compagnons et au prophète. Et donc, il commence cette rime en disant « Alam ta'lama, ne savez-vous donc pas, vous deux ?» On peut se poser la question à qui il s'adresse. C'est le duel ici. En arabe, il y a le singulier, le duel et le pluriel. Je ne sais pas si ça existe dans une autre langue. Dans la plupart des langues qu'on connaît, en tout cas les langues latines, ça n'existe pas. Duel, ça veut dire pluriel. Quand tu conjugues, tu veux conjuguer, tu vas t'adresser à deux personnes, tu vas dire vous. Deux et plus. En arabe, il y a le singulier, une personne, il y a le duel, et il y a le pluriel. Le pluriel, c'est quoi? C'est trois ou plus. Alors, à qui il s'adresse? En réalité, ici, il ne s'adresse pas forcément à quelqu'un, parce qu'en vérité, c'est quelque chose, une trace qu'on retrouve dans tous les poèmes, dans beaucoup de poèmes en tout cas. Depuis la Jahiliya, dans les poèmes de la Jahiliya, et même dans les poèmes qui viendront après, à partir de l'islam, le duel, on le retrouve répandu dans les poésies. Et en vérité, soit il s'adresse à une seule personne, soit en vérité, quand il parle de duel, il parle à lui-même. Et dans le Coran, on peut retrouver ça aussi. Al-qiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Al-qiya, c'est conjugué au duel. Allah Azza wa Jal donne l'ordre à un ange. Al-qiya, vous deux, jetez dans le feu tous mes créants entêtés. Vous deux, s'adresser à qui? Aux anges ou à un ange? Pas forcément qu'à deux anges, parce que c'est une formule de style, une forme de style en arabe qui était très utilisée dans la poésie. Le duel, c'est très utilisé. Ça, c'est important, si vous tombez sur... Pour qu'on ouvre cette parenthèse, on a cité ce poème, et on peut se poser légitimement la question, il s'adresse à qui, ce compagnon, quand il parle à deux personnes? C'est une façon de parler à soi-même, même s'il utilise, dans la forme linguistique, le duel, ou alors il s'adresse à une seule personne. C'est une forme très connue dans la poésie. Par exemple, si on prend la Jahiliya, le poète par excellence le plus connu dans la Jahiliya, c'est Imru'ul Qays. Imru'ul Qays a vécu 50 ans à peu près avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très proche de la période islamique. Mais il est quand même dans la Jahiliya. Et lui, il fait partie de Ashab al-Mu'allaqat, Imru'ul Qays. Mu'allaqat, c'est les fameux poèmes, on les appelle Mu'allaqat, les suspendus, parce que celui qui gagnait le concours de l'année de la poésie, il y avait des défis entre les poètes, en particulier à Souq al-Ukkad, et celui qui gagnait le défi, son poème avait le droit d'être suspendu dans la Kaaba. Et donc, on appelle ces poètes-là Ashab al-Mu'allaqat, ceux qui ont eu le privilège d'avoir leur poème suspendu dans la Kaaba. Imru'ul Qays en fait partie, et dans sa poésie qui lui a valu de gagner ce concours-là et qu'il a eu son poème suspendu dans la Kaaba, la première rime, il dit quoi ? Qifa nabki min dhikra habibin wa manzili bi siqti liwa bayna ad-dakhuli fa hawmali. Qifa s'adresse à deux personnes, c'est le duel. Posez-vous. C'est comme s'il s'adresse à deux personnes, il leur dit « Posez-vous, arrêtez-vous. Nabki, afin que nous pleurons, arrêtez-vous avec moi pour qu'on pleure, min dhikra habibin wa manzili. » Afin qu'on pleure à propos du souvenir. On va pleurer en se rappelant habibin, d'un bien-aimé, ou d'une bien-aimée, évidemment. Wa manzili, et de la demeure. Yarni parle ici dans ce poème de la nostalgie quand il part de ceux qu'il laisse derrière, de ceux qu'il aime et de celles qu'il aime. Wa manzili, de la maison, du pays. Il a le mal du pays, le mal des gens qu'il a quittés. Donc il dit Qifa nabki min dhikra habibi wa manzili bi siqti al-liwa bayna ad-dakhuli fa hawmali. Siqti al-liwa, c'est l'endroit où il habitait, qu'il a quitté. On l'appelait Siqti al-liwa. Donc il dit, rappelons-nous de ce qu'on a aimé et qu'on a quitté et de notre demeure où ? À Sirt al-Liwa. Bayn al-Dakhul fa Hawmali. Entre l'entrée et Hawmal, l'autre côté du village ou de la ville. Non. Pourquoi je cite ? Pour vous dire que même lui, il a utilisé le duel. Et les shurrah de la poésie se sont posés la question sur ce duel. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Non. Et bon, il y en a, ils ont été très loin dans leur explication. Il y en a, ils ont dit, en fait, quand le poète il s'adresse à deux personnes, c'est parce qu'il faut être un groupe. Et les Arabes ont toujours considéré, et ça a été confirmé par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes ont toujours considéré qu'un groupe, ce n'est pas deux personnes. C'est trois personnes. Parce que deux personnes, on a dit, c'est juste le duel. Donc, il s'adresse à deux personnes, c'est-à-dire lui plus deux, ça fait combien ? Ils sont un groupe. Ils sont trois. Il y en a, ils ont dit... Les poètes, ils ont utilisé le groupe de trois personnes. Le groupe de trois personnes, duel plus lui, le poète qui parle, ça fait trois. Pourquoi ? Parce que le prophète dans le hadith, il a dit qu'un groupe, yani, hein, c'est à partir de trois personnes. Il leur faut un amir. Yani. Quand il y a trois personnes, à partir de trois personnes ou plus sont en voyage, il leur faut un amir. Non. Mais en vérité, on sait que ce duel, il est largement utilisé dans la poésie, même dans la jahiliya. Donc, ce n'est pas forcément l'explication à donner, même si c'est vrai que dans la culture arabe, ils considéraient qu'un groupe, c'est à partir de trois personnes. En tous les cas, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que ce duel, il ne fait pas forcément référence à des personnes, comme l'a utilisé Imru'ul Qays. Et ce duel a continué à être utilisé dans la poésie. La poésie, c'est un art qui est venu de la jahiliya et que dans l'islam, on a continué à utiliser dans la langue arabe. Il a continué à être utilisé après l'arrivée de l'islam, après l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les poètes dans l'islam, ils ont continué à utiliser ce duel en prenant exemple sur leurs ancêtres. Par exemple, on peut citer le poète, même si bon, c'était pendant la période islamique, mais son poème, il n'a rien d'islamique. C'est un poème... nous, on avait déjà parlé plusieurs fois de Majnoun ou Layla. Le fou de Layla. Il avait été surnommé, alors que son nom c'est Qays ibn Mulawih, mais il a été surnommé Majnoun ou Layla, le fou de Layla, parce qu'il était follement amoureux d'une personne qui s'appelait Layla, donc on l'a appelé le fou de Layla. Peut-être que certains se reconnaîtront. À la kulli hal, Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est le duel, en fait. C'est pour ça qu'on cite cette poésie. On ne va pas citer Majnun Layla, mais on va en citer un autre. Quelqu'un qui a été surnommé, il s'appelait Kuthayr. Mais il a été surnommé Kuthayr ou Azza. Kuthayr de Azza. Kuthayr, c'est son prénom. Azza, c'est le prénom de sa dulcinée, de sa bien-aimée. Il était lui aussi passionnément amoureux de cette femme, à un tel point qu'il en a perdu la tête et il faisait des poèmes que pour elle. Et on l'a appelé le Kuthayr de Azza. Il est connu que par rapport à Azza. Celle avec qui il voulait se marier, et ses parents ont refusé de la lui donner en mariage, ils l'ont mariée à quelqu'un d'autre. Et ils l'ont éloigné de lui. Mais subhanallah, sha'atil aqdar, le destin a voulu qu'il la croise. Et dans un de ses poèmes, où il va expliquer qu'il l'a croisée, etc., et que ça va raviver la flamme, il dit, à propos de ce duel, il utilise Khalilaya. Khalil, c'est un ami, un confident. Khalilaya, ô vous, mes deux amis, mes deux confidents. Il dit Khalilaya, hada rab'u azzata fa'aqila. Qalu saykuma, thumma bkiya haythu hallati. Ô vous, mes deux confidents, mes deux amis. Pourtant, on sait qu'il ne s'adresse à personne. Il s'adresse juste à lui-même, en fait. Il se pleure à lui-même. Ô vous, mes deux confidents, hada rab'u azzata fa'aqila. Voici l'endroit où a demeuré Azza. Fa'aqila. Attachez donc. Qalousaykuma. Le qalous, c'est les petits chameaux, les jeunes chameaux. Attachez donc vos deux chameaux. Puisque dans mon imaginaire, il s'adresse à deux personnes, donc il parle de deux chameaux. Attachez vos deux chameaux. Thumma bkiya haythu hallati. Et pleurez là où elle a demeuré. Arrêtez-vous là et pleurez là où elle a demeuré. Il demande à ce qu'on s'arrête là où elle est passée. C'est juste les traces qu'elle a laissées et qu'on pleure. Non. Mais il va plus loin. Pour voir la maladie, de la pathologie du corona hubbizmégu. Il dit « Wa moussa turaban kana qad massa jildaha wa bita wa dhalla haythu batat wa dhallati. Wa moussa turaban, touché la terre. » qui a touché sa peau, parce qu'elle s'est assise là. Donc probablement cette poussière, elle a touché sa peau. Prenez de cette poussière qui a touché sa peau. Et restez là la journée et passez là la nuit, là où elle a passé la journée et où elle a passé la nuit. Parce qu'en fait, elle a campé dans un endroit. De quoi il parle en vérité? Il est parti pour le hajj. Parti pour le pèlerinage. Pourquoi il est parti pour le pèlerinage? Pour essayer d'oublier, de faire taouba, parce qu'il n'arrivait pas à l'oublier. Et Allah Azza wa Jalla a voulu que c'était des grandes caravanes qui partaient au Hajj et elles se rejoignaient d'endroit à un autre, des contrées différentes, et ça faisait à l'arrivée à Mekka une très grande caravane. Mais tous les gens dans cette caravane, ils venaient d'horizons différents parce que sur la route, ils se rejoignaient. Et à un moment, sur le chemin, en allant au Hajj, qu'il y avait plusieurs caravanes qui s'étaient rejoints, et elles ont campé. Et lui, ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme qu'il avait perdue de vue, parce que sa famille l'avait mariée de force, etc., Azza, elle était avec son mari dans la caravane. Et son mari lui a dit, fais-moi tel repas, donc ils avaient quelques jours de campement, fais-moi tel repas. Et dans ce repas, elle avait besoin de beurre, le beurre d'once, là, le beurre fondu. Elle n'en a pas. Et donc, elle est partie de tente à tente, là où ils ont campé, elle allait chez les gens, elle leur demandait, excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas un peu de beurre? J'en ai besoin pour le plat que je veux faire pour mon mari. Jusqu'à ce qu'elle arrive à une tente, elle demande, il y a quelqu'un, et lui, la voix, ça lui dit quelque chose. Il dit, entrez. Et quand elle entre, ah, ils se reconnaissent. Aïwa. Et lui, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train d'aiguiser sa flèche. Entrez, et quand il la voit, il se coupe le doigt, comme dans l'histoire de Youssouf. Aïwa. Et donc là, il s'est coupé le doigt. Ah. Il saigne. Elle arrive. Elle prend la partie de son khimar, de son hijab, et elle lui essuie le sang. Ah, ils se sont mis à pleurer tous les deux. Et elle est retournée chez son mari, il lui a donné le beurre qu'elle cherchait. Il lui en avait, tiens, prends tout. il est retourné chez son mari, elle voit, son mari voit qu'elle n'est pas bien. Et il voit qu'elle a du sang. Et évidemment, elle ne peut pas lui raconter qui elle a vu et qu'est-ce qui s'est passé. Il va se faire des films. Et à un moment, il va lui dire, tu vas me dire maintenant la vérité. Elle cherchait des vieilles histoires, des vieux prétextes. Maintenant, tu vas me dire ce qui s'est passé. Et donc, elle lui a expliqué. J'ai rien fait de mal, mais Allah Azza wa Jal a voulu que celui qui voulait se marier avec moi, Kuthayir, il est là. Ah ouais, il est là. Et Allah, devant moi. Il va lui dire, tu me suis, mais devant moi. Et Allah. Et il la ramène, il lui dit, montre-moi sa tente. C'est là, il lui demande de sortir, sors ici, par ici toi, viens. Et il demande aux gens de venir, venez. C'est le poète Kuthayr, il était connu. Et il était connu pour son histoire avec... Et ça, il prétend que lui, il dit qu'il aime cette femme, alors qu'elle est ma femme. Et il prétend dans ses poèmes qu'elle aussi, elle l'aime. Et c'était vrai. Mais lui, le mari, il dit aux gens, eh bien, regardez pour que vous ayez la preuve. Et il dit à sa femme, Yallah, insulte-le devant tout le monde. Et elle va l'insulter, elle n'a pas le choix. Non. Et c'est à cette occasion, pour raconter cette rencontre, qu'il fait ce poème. Et donc il dit, وَمُسَّ تُرَابًا كَانَ قَدْ مَسَّ جِلْدَهَا وَبِيتَ وَظَلَّ حَيْثُ بَاتَتْ وَظَلَّتِ. Et toucher la terre, la poussière qui a touché sa peau, et passer la journée et la nuit là où elle a elle-même passé la journée et la nuit. Qu'est-ce qu'elle va dire après? Ah, ceux qui ont des péchés à se faire pardonner, écoutez ce qu'il dit. Et il a trouvé la formule pour se faire pardonner les péchés. Il dit, عَسَى اللَّهُ أَنْ يَمْحُوَ عَنْكُمَا ذُنُوبًا إِذَا صَلَّيْتُمَا حَيْتُ صَلَّتِي. Peut-être, très probablement, Allah vous pardonnera beaucoup de péchés si vous priez au même endroit où elle a prié elle. Ah, elle a tellement la baraka que si tu pries là où elle a prié elle, balak, tu vas te faire pardonner de tes péchés, comme ils disent. Gharib, yani. Et ensuite, il parle de cette scène où son mari, il y a insisté, il a demandé à ce qu'il l'insulte devant tout le monde. Et il dit, وَكَلِّفُهَا الْخِنْزِيرُ شَتْمِي وَمَا بِهَا هَوَانِي وَلَكِنْ لِلْمَلِكِ اسْتَدَلَّتِي. Le porc, le khinzir, en parlant de son mari, le porc, il lui a imposé de m'insulter. وَمَا بِهَا هَوَانِي. Et en vérité, son intention, ce n'était pas de m'humilier. وَلَكِنْ لِلْمَلِكِ اسْتَدَلَّتِي. Mais elle a bien dû se soumettre au maître, son mari, celui qui la possède, entre guillemets, et elle est obligée de se soumettre à ses ordres. Hani an mari an ghayra da'in mukhamirin li'azzat min a'radina mastahallati. Félicitations, prends tout ce que tu veux de ma dignité, ô Azza, je te le donne, je te l'offre. Tant que tu en as besoin pour le rendre licite, rends-le licite. Il n'y a pas de problème. Hubba, Imadullah. Non. Comme Majnun Leila, dont on a déjà parlé, qui allait jusqu'à s'adresser à... Lui aussi, il s'adressait par exemple à ses deux confidents. Liana Khali Leila, comme on a dit, c'est une formule chez les poètes. Et lui, qu'est-ce qu'il disait à ses deux confidents imaginaires? Il disait, Khali Leila, illa tabkiyani altamis, khalilan idha anzaftu dam'i bakaliya. Fashabba banu Leila wa shabba banu bniha, wa a'laqu Leila fi fu'adi kama hiya. Gharib. Ô vous, mes deux confidents, si vous refusez de pleurer, illa tabkiyani, sur ma situation, altamis, je chercherai, khalilan, un autre confident, idha anzaftu dam'i, pour que lorsque j'ai plus de larmes à laisser couler, bakaliya, c'est lui qui pleurera pour moi. Et les gens lui disaient, t'inquiète pas, lui aussi, il l'avait marié sa famille, il l'avait éloigné en Irak alors qu'il vivait du côté de Najd pour qu'il ne la voie plus. Sa famille à lui, lui disait, t'inquiète pas, avec le temps c'est la guérison, le remède à cette pathologie du hubbisme aigu. Et il leur répond dans ce poème, il leur dit, فَشَبَّ بَنُوا لَيْلَا وَشَبَّ بَنُوا بْنِهَا وَأَعْلَاقُ لَيْلَا فِي فُؤَدِكَ مَا هِيَا. Les enfants de Leïla, ils sont devenus vieux. Et les enfants des enfants de Leïla, ils sont eux aussi devenus vieux. Et ce qui m'attire chez Leïla est toujours dans mon cœur comme au bon vieux temps. Je ressens toujours la même chose. Donc, pour répondre à ceux qui lui ont dit, t'inquiète pas, avec le temps, ça va guérir. Il s'adressait même plus qu'à des confidents imaginaires, il s'adressait carrément à son cœur de temps en temps. Gharib, yani. Dans ses poèmes, il parle à son cœur et il dit « Alasta wa'attani, ya qalbu anni, alasta wa'attani ya qalbu anni, idha tubtu al layla tatubu, faha ana ta'ibu nahn hubbi layla, fama laka kullama dhukirta tadhubu. » Ne m'as-tu pas promis, ô mon cœur, que si je me repentais de l'amour de Layla, toi aussi tu te repentirais ? Yarni t'arrêterait de me faire mal ? Eh bien, moi, voici, voilà, j'ai décidé, je me repens de l'amour de Layla. Alors qu'as-tu à chaque fois qu'on pense à elle, tu fonds à l'intérieur de moi. Yarni, lui, il dit à son cœur, c'est de ta faute, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai voulu arrêter, mais c'est toi, Yarni Khari. Non. Et tout ça, j'ai ouvert cette parenthèse par rapport au duel. Lui aussi dit Khalilaya. Donc tout ça, c'est imaginaire, ce duel-là. Mais souvent, ça permet en fait d'avoir, de respecter l'awzan, ce qu'on appelle awzan ou shi'r, les rythmes de la poésie. Il y a des rythmes et ça permet de les respecter en fait plus facilement que si on utilise le singulier ou le pluriel. Et pour équilibrer la balance, parce que j'ai cité le duel dans la poésie de la Jahiliya, je l'ai cité chez ceux qui étaient des follement amoureux de leur dulciné, on peut citer aussi Abu al-Atahiya, qu'on appelait Sha'ir al-Zuhd, le poète de l'ascétisme. C'était quelqu'un, mashallah, qui vivait, yani de peu, alors qu'au début, il vivait dans les palais, il avait été privilégié grâce à ses poésies, et finalement, il a voulu abandonner tout ça, et il vivait de peu, et finalement, il faisait ses poèmes gratuitement, il ne faisait plus que des poèmes sur la taqwa, sur la crainte d'Allah, sur la piété, sur l'adoration d'Allah, azza wa jalla, etc. Et il va faire un poème au moment où sa mère va mourir. Et il s'adresse comme ça à ses deux confidents imaginaires, comme le font les poètes. Il dit « Khalilaya innal hadithati taradafu wa ashumu aqwasin nawa tataqadafu walillahi aqdarun tahillu bi khalqihi tuhitu bina fahiyar riyahul awasifu salamun alayki ya ummi allati bakatki rijal wal nisaul awatifu. » Il dit, ô vous mes deux confidents, innal hadithati taradafu, les événements, yani les événements de la vie, taradafu, ils se succèdent. Wa ashum aqwas an-nawa tataqadafu. Ashum aqwas, les flèches, des arcs. An-nawa, an-nawa, ça veut dire l'éloignement, le fait d'être séparé, éloigné de quelqu'un. Il parle de la séparation, la déchirure avec la mort de sa mère, le fait qu'il est éloigné de sa mère par sa mort. Il dit les flèches de l'arc de la séparation, tataqadafu. Ils sont tirés. Il les ressent, ces flèches, dans son cœur. Walillahi aqdarun tahallu bi khalqihi. Allah. Il s'en remet à Allah, même si ça lui fait très mal. Il dit « Walillahi aqdarun tahillu bi khalqihi ». C'est parce qu'à Allah appartient le destin qui s'abat sur sa créature. « Tuhitu bina » Ce destin nous assiège. « Fahiyya riyahu al-awasifu » Elle nous encercle. Ce destin nous encercle. « Fahiyya riyahu al-awasifu » Et ce destin, il est, quand il s'abat sur nous, dans notre vie, il est tel. « Riyahu al-awasifu » Les vents dans la tempête. Les vents forts là, qui t'emportent. Tu te dis, toi, tu vas être fort, tu vas être là. C'est ça qu'il avoue à travers cette métaphore. Il veut avouer que tu vois le vent arriver, tu te dis, t'inquiète, adi. Et pourtant, tu es emporté. De temps en temps, quand le vent est fort, tu es emporté. Tu pensais fort et finalement, tu n'es pas si fort que ça face à l'épreuve de la vie. Il fait une longue introduction comme ça et au début, tu ne comprends pas forcément de quoi il veut, où est-ce qu'il va en venir, jusqu'à ce qu'il dise « Salamun alayki ya ummi allati »« Paix à toi, salut à toi, ô ma mère allati »« Qui »« Bakatki rijal wa nisa ul awatifu » »« Qui a été pleurée par les hommes et les femmes pleines de sentiments, d'amour. » Et ici, ce qui est intéressant en arabe, c'est qu'il utilise le féminin dans la conjugaison du verbe, alors qu'il dit « C'est qui a pleuré ?» À la fois les hommes et les femmes. Les femmes compatissantes, mais aussi les hommes. Et quand on a un pluriel où il y a dedans les hommes et les femmes, tu ne mets pas la féminité dans le verbe. Tu dis baka, baka, al-rijal ou al-nisa. Tu ne vas pas dire bakat, al-rijal ou al-nisa. Et pourtant, lui, il a mis le féminin. Alors qu'il aurait pu ici ne pas le mettre, même pour le rythme de la poésie. Il avait besoin d'un temps de pause ici pour la poésie, c'est vrai, mais il aurait pu dire Baka, avec la prolongation, ça lui faisait son temps de pause, il aurait respecté le rythme de la poésie. Donc sans aucun doute, il a cherché quelque chose. Parce que quelquefois, on est obligé de déroger aux règles de conjugaison ou de grammaire pour respecter le rythme. Mais ici, on voit qu'il aurait pu ne pas respecter le rythme. Alors pourquoi il l'a mis ? Pour dire que les femmes, pour dire que les hommes qui ont pleuré sa mère, ils l'ont tellement pleuré, ils étaient tellement pleins de compassion qu'ils étaient comme les femmes. Eux et les femmes compatissantes, ils sont devenus les mêmes. Salamun alayki ya ummi allati bakatki ar-rijal wa an-nisa' al-awatif. Ala kulli hal, on va s'arrêter là, on n'est pas là pour un cours de poésie. Mais tout ça nous par rapport à qui ? Par rapport au compagnon Al-Hubab ibn al-Mundhir radiyallahu anhu, on a dit qu'il était poète. Et c'est en citant une de ces rimes que ça nous a fait amener à tout ça. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, de savoir exactement ce qui s'est passé cette journée du vendredi, juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse sortir l'armée des compagnons pour Uhud. Et on a dit qu'il va se passer des choses à Médine, il va se passer des choses en chemin jusqu'à Uhud. Et on va s'intéresser à toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Tout d'abord, il y a le Jumu'ah. Le prophète sallam prie le Jumu'ah, selon les historiens. Et en particulier Ibn Hisham et Tabari, ce sont eux qui s'intéressent aux détails de cette journée-là. C'est chez eux en particulier qu'on retrouve les détails de la journée, le déroulement de la journée. Il prie le Jumu'ah. Ensuite, il y a eu l'organisation d'une janaza, d'un de ses plus fidèles compagnons qui est décédé, Malik ibn Amr, radiyallahu anhu, un compagnon des Bani Najjar, c'est-à-dire une tribu de Médine. Et les Bani Najjar, je vous rappelle, c'est de là qu'est originaire la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son père s'était marié avec une femme des Bani Najjar, de Médine. Donc c'est des gens qui lui sont très proches. Et on voit à travers ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'organiser la guerre, il est en train de gérer aussi les affaires courantes et il est touché personnellement par la mort d'un compagnon qu'il doit enterrer, etc. Il y en a nous souvent, quand on fait la vie du prophète ensemble, on arrive à la bataille de Uhud, donc il a organisé l'armée, il part à la bataille de Uhud, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Il se passe des choses. Il prépare le prêche. Il fait le Jumu'ah. Il y a un homme qui est mort. Et il faut l'enterrer, il faut le laver, l'enterrer. Le professeur Hassan s'en occupe. Et ensuite, c'est l'heure de l'Asr. Le professeur Hassan préside la prière de l'Asr à la mosquée. Et à ce moment-là, c'était le moment où le professeur Hassan avait donné rendez-vous pour la mobilisation. Il constate que pour la prière de l'Asr, tout le monde est là et tout le monde est prêt à partir. Même Ahlul Awali. Ahlul Awali, c'est ceux qui vivent sur les hauteurs, à l'extérieur de Médine. Même eux, ils ont été mobilisés. Il y en a les Haus, à l'intérieur, et à l'extérieur, et les Khazraj. Ils constatent que Ahlul Awali sont venus. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez lui, avec Abu Bakr, al-Siddiq, radiyallahu anhu, et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Pourquoi ils viennent avec lui ? Ils vont l'aider à se préparer. Il l'aide à mettre son turban, son casque et son turban. Il l'aide à mettre deux armures, il va mettre deux armures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vont d'ailleurs le sauver, comme on le verra, d'une grave blessure, peut-être d'une blessure mortelle s'il n'en avait pas mis deux, puisqu'il y en a une qui cédera et pas la deuxième, face à un coup qu'il recevra. Et il prépare ses armes, etc., son épée. Et ensuite, il sort. Et pendant que les gens sont rassemblés, que le professeur Hassan se prépare chez lui, les compagnons parlent entre eux. Et il y a en particulier deux compagnons. Usayd ibn Hudayr, on l'a déjà cité, c'est un des chefs d'un des trois bataillons. Et Sa'd ibn Mu'av, un des doyens et un des chefs des grands notables de Médine, un des premiers à s'être converti à l'islam. Il s'est converti en même temps qu'Usayd ibn Hudayr. Ils se sont convertis le même jour, à quelques instants d'intervalle. On l'avait rappelé la semaine dernière. Donc Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu, et Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, ils s'adressent aux gens et ils leur disent استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. Vous avez forcé la main du professeur Hassan, vous l'avez forcé à sortir. Alors qu'il nous avait proposé son idée à lui, sa stratégie à lui, c'était de rester à Médine. Et vous, c'est vous au final. Vous, les compagnons, vous l'avez forcé à rester alors qu'il ne voulait pas. Et donc les gens ils vont commencer à discuter, ils ont peut-être raison. Le professeur Hassan, c'est vrai qu'il nous avait proposé de rester, on avait dit non. Et donc il y a même un groupe de compagnons qui vont s'adresser à Hamza. Selon certaines versions historiques, ils s'adressent à Hamza. Pourquoi ? Parce que Hamza, dans d'autres versions historiques, c'était lui qui avait juré par Allah qu'il ne goûterait plus à aucune nourriture tant qu'il n'est pas sorti de Médine pour aller à la rencontre des idolâtres et aller les attaquer face à face. Et donc ils vont voir Hamza pour deux raisons. Parce que c'est lui, entre guillemets, on peut dire qu'il a peut-être forcé la main au professeur sallam. En tout cas, c'est eux, ils le pensent comme ça à ce moment-là. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Le professeur sallam, il n'y a personne qui lui a forcé la main. Et comment on va le voir, justement. Mais eux, ils se disent, peut-être Hamza, il a forcé la main du professeur sallam. Alors, je rappelle que cette version qui dit que Hamza a juré, etc., cette version n'a pas été authentifiée. Mais, comme on a déjà dit plusieurs fois, quand il s'agit d'histoire, surtout si on va aller dans les détails, il est permis de narrer l'histoire sans en tirer des conclusions pour notre vie de tous les jours, sans en tirer des hukm shara'i, tout en rappelant, comme on essaie de le faire à chaque fois, ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Et donc, dans le cas où ce serait authentique, même si ça n'est pas le cas, ça n'a pas été authentifié, ils peuvent penser, puisque Hamza radiallahu anhu aurait juré qu'il faut absolument sortir, que c'est lui qui lui a forcé la main, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, parce qu'ils connaissent la proximité et l'amour mutuel qu'il y a entre le professeur sallam et Hamza ibn Abdel Muttalib, donc ils se disent, s'il y a quelqu'un qui peut finalement le convaincre de rester et de faire ce qu'il voulait faire dès le début, c'est Hamza. Donc ils vont aller voir Hamza, ils vont lui dire... « Ya Hamza, on pense qu'on a forcé le professeur Hassan et on lui a poussé la main. Donc, « Idhab li nabiyillah wa qul lahu inna amrana li amrika taba'un ya Rasulallah. » Va voir le messager d'Allah et dis-lui que notre affaire, elle ne fera que suivre ton affaire. C'est-à-dire, fais vraiment ce que tu veux et nous, on va te suivre. Si finalement tu veux rester à Médine, reste. Et quand le professeur Hassan va sortir, il y a des versions historiques qui nous disent, des narrations historiques qui nous disent qu'un certain nombre de compagnons vont s'adresser au professeur Hassan et ils vont lui dire Ya Rasulallah, ma kana lana an nukhalifaka fasna' ma shi't in aradta an tamkutha bil madinati faf'al. Et dans d'autres versions, faq'ud. On n'avait pas, ô messager d'Allah, on n'avait pas à te contredire dans l'ordre, dans ta consigne. Donc ils le prennent comme ça, selon ces versions, elles aussi, qui ne sont pas authentifiées. On n'avait pas à te contredire. Donc si ton désir, c'est vraiment de rester, alors reste. Reste à Médine, et nous, on restera. Et ensuite, ces versions, elles nous disent quoi ? Elles nous disent que le professeur sallam va leur dire « Ma kana li nabiyin labisa la'matahu an yada'aha hatta yahkum Allahu baynahu wa bayna aduwi. » Il n'appartient pas à un prophète qui a mis son armure, et lui en l'occurrence, il en a mis deux comme on l'a vu. Il n'appartient pas à un prophète qui a mis son armure, qui s'est habillé de son armure, qui s'est vêti de son armure, an yada'aha, de la redéposer, hatta yahkum Allahu baynahu wa bayna aduwi, jusqu'à ce qu'Allah juge entre lui et son ennemi. Depuis tout à l'heure, je vous dis dans les détails que je vous raconte, ça n'a pas été authentifié. Ici, cette phrase, elle est authentique. Cette phrase, on la retrouve... Dans des narrations qui ont été authentifiées. Mais c'est le reste de l'histoire dans tous les détails qui n'ont pas été authentifiées. Ça aussi, c'est important. Il y en a un qui va voir que l'histoire n'a pas été authentifiée. Et la dernière phrase, c'est celle-ci, celle que le professeur me prononce. Il va penser que la dernière. Non. Il y en a cette dernière phrase, tu peux la trouver dans une autre narration toute seule. Le professeur a dit que. Et cette narration, là, quand tu prends la chaîne de transmission, elle est quoi ? Elle est authentique. Pour autant, ça ne va pas faire de l'autre. Tout, avec tous ces détails, une histoire authentique, même si, ça lui donne plus d'appui et plus de force vers l'authenticité. Parce qu'on sait que déjà, il y a une phrase dans toute cette narration qui est authentique. Na'am. Ala kulli hal. Le prophète sallam dit « Ma kana li nabiyin labisa la'matahu an yada'aha hatta yahkum Allahu baynahu wa bayna aduwwihi. » Il n'appartient pas à un prophète qui s'est vêti de son armure, de la reposer, de la déposer, jusqu'à ce qu'Allah juge entre lui et son ennemi. Ici, il y a deux explications. Il y a des savants qui disent que ça veut dire que c'est un hukm, une règle qui appartient à tous les prophètes. C'est une règle spéciale pour les prophètes. Quand ils mettent une armure, ils ne peuvent plus l'enlever jusqu'à ce qu'ils aient fait ce qu'il y avait à faire avec l'armure. Ils l'ont mis pour la guerre. Jusqu'à ce qu'ils aillent à la guerre ou que finalement il n'y a pas de guerre parce que l'ennemi se rend, se soumet. Mais en tout cas, il ne doit pas la déposer entre-temps. C'est une règle pour le prophète. Non. Donc, ils disent, il faut le prendre à la lettre. Certains savants disent, il faut prendre cette phrase à la lettre. D'autres savants disent, c'est une image pour dire qu'il faut être déterminé. On a pris une décision, j'ai tranché la décision, on ne revient plus en arrière. C'est dans ce sens-là. Maintenant qu'on a pris la décision, j'ai mis mon armure, et maintenant on va rester. Non, j'ai mis l'armure, je ne l'enlève plus. C'est fini le temps de la consultation. C'est ce que ça veut dire. Le professeur Hassan les a consultés, j'ai pris les arguments, j'ai pris les opinions, j'ai tranché. À ce moment-là, tout le monde était content. Il ne faut pas venir un jour après, deux jours après, et dire non, finalement non. Il faut croire en ce qu'on a tranché. Les savants, ils écrivent des paragraphes et des paragraphes sur cette phrase, sur justement comment doit être menée la shura, la consultation et la prise de décision par un chef, par un amir, par un leader. Et ça, c'est important dans tout, même dans notre vie de famille, quand tu prends une décision pour la famille, pour toi et tes enfants. Ça a un impact sur tes enfants, sur toi, sur ta vie de famille, sur ton épouse. Sur le fait de dire, on va faire ça. Et finalement, ah non, laisse tomber, on va faire ça. Et après, tu dis, ouais, non, on va refaire ça. Ça crée quelque chose, ça crée un environnement dans ta famille. Ça crée une mentalité auprès de tes enfants. Une mentalité d'instabilité. De gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et attention, il y a un autre extrême. Celui qui est thori-thori, comme ils disent les rifains de chez nous. Elle est montée, la fameuse carabine. Vous connaissez la légende, hein ? On ne va pas la rappeler. C'est khlas. Même quand tu vois que... Non, c'est comme ça. Ajib. Il y a des moments, il faut savoir aussi revenir sur certaines décisions parce qu'on voit que finalement, on peut être capable de reconnaître nos erreurs. Et ça aussi, c'est un impact positif sur la famille. C'est la chose, c'est qu'il faut être mesuré. Il ne faut pas être là tout le temps à revenir à chaque fois sur toutes les décisions. Et il ne faut pas non plus être entêté et toujours « j'ai raison et, j'ai pas, et ce sera comme ça et pas autrement ». On raconte que dans les Banu Israël, bien avant l'islam, il y avait un riche qui avait l'habitude d'avoir tout ce qu'il voulait. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a l'argent. Et même s'il faut aller jusqu'à payer le juge quand on porte plainte contre lui, payer le juge. Corruption, et il avait ce qu'il voulait. Et on raconte qu'il avait un très beau cheval. Et son voisin était pauvre, et il avait une vache. Ah voilà, quand tu vois la vache, tu dis... Quand tu le vois, lui, tu dis mesquine, et quand tu vois la vache, tu dis mesquina. Lui, mesquine, et la vache, mesquine. Là. Mais, subhanallah, la vache, elle a donné naissance à un veau. Un veau sahih. Et le riche, malgré qu'il était riche, et qu'il avait tout ce qu'il voulait... Ça l'a rendu jaloux. Qu'un jour il est venu, il a pris le veau, il s'est accaparé le veau. Le pauvre, il vient, il dit, hey, tu vas où ? C'est mon veau.
Je lui ai dit, d'où, où est-ce que tu as vu que c'est ton veau? Prouve-le. Je lui ai dit, bah, j'ai une vache. C'est elle qui l'a mis au monde. Toi, tu n'as pas de vache, tu as juste un cheval. Subhanallah. Tu oses dire que mon veau, ce n'est pas le fils de mon cheval. C'est mon cheval qui l'a mis au monde. Pourquoi il dit ça? Il sait qu'avec l'argent, il peut tout avoir. Il dit, ah ouais, eh ben moi, je vais aller porter plainte. Mais lui, il est mesquin, il est pauvre. Il va porter plainte. Et donc, le juge, il les convoque tous les deux. Eh bien, le riche, quand il est convoqué, qu'est-ce qu'il fait? Avant la convocation, il va voir le riche, il va voir le juge, il lui dit, hack, tiens, prends. On est d'accord. Le veau, c'est le fils de mon cheval. Il faut un peu plus? Hack, un peu plus. C'est bon? C'est son fils? Yallah. Et quand ils arrivent à la convocation, le juge, il dit, nous avons jugé, selon toute vraisemblance, en regardant les deux animaux, le cheval et le veau, tous les deux, ils ont une queue. Tous les deux ont quatre pattes. Sans aucun doute, le veau, c'est le fils du cheval. Le pauvre, il dit, c'est pas possible. Oui, si lui, il veut pas comprendre, je vais faire appel. Il fait appel. Il va jusqu'au bout, il va jusqu'à la cour de cassation. Je ne sais pas si ça existait ce jour-là. Et quand il arrive à la dernière, au dernier juge, il fait toutes les étapes. Et à chaque fois, les juges, ils se font payer et ils disent, ah non, le veau, c'est le fils du cheval. Parce que le pauvre, il ne comprend rien. Et donc, à chaque fois, il reporte plainte jusqu'à ce qu'il arrive à, entre guillemets, la dernière cour de justice. Après ça, il ne peut plus faire appel. Mais il tombe sur un juge qui est honnête, qui craignait Allah dans les Banu Israël avant l'islam. Et le riche, il va le voir et lui dit, tiens, il lui dit, A'udhu billah, qu'Allah me préserve. Ah, combien il faut en plus? Yallah dit, tout l'or du monde, je ne l'accepterai pas. Et si tu continues, c'est la prison. Rendez-vous à la convocation. Et donc là, il n'a pas pu le payer. Ils arrivent à la convocation. Et donc le pauvre, il explique l'affaire. Et le juge, il regarde le riche et lui dit, c'est vrai, tu prétends que le veau là, c'est le fils du cheval. C'est vraiment ce que tu prétends? Il dit oui. Et comme l'ont jugé 10 juges avant, avec les arguments, avec les tests ADN, avec les empreintes, tout ce que tu veux. On a tout fait. On a tout payé hier. Aïwa. Et donc là, le juge, il va dire, je suis désolé, je ne peux pas juger cette affaire. Le pauvre, il dit, subhanallah. Les autres, ils jugent contre moi. Toi, tu dis que tu ne peux pas. Attends. Je vais juger plus tard, parce que là, vraiment, je ne peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de ressentir que ma période de menstru vient d'arriver. Donc je suis désolé, moi je ne juge jamais, je tranche jamais en période de menstru. Avec les hormones et tout ça, on ne sait pas. Donc je préfère attendre que la période de menstru elle passe et ensuite je donnerai mon jugement. Aïe, voilà. Et le riche, il dit, « Smahli, les hommes peuvent avoir des menstrues, Zama. » Il lui regarde et lui dit, « Smahli, les chevaux, ils peuvent avoir des veaux, Zarma. » Et à ce moment-là, il dit, « Hakamna, on a jugé que le veau, bien évidemment, c'est le fils de la vache et pas celui du cheval. » Pourquoi je suis parti sur cette histoire? C'est sur l'entêtement, Naam, sur le fait d'être entêté, de raconter, quand tu penses avoir raison, Naam. Certains, dans leur entêtement, ils vont jusqu'à à dire ce qu'on appelle en arabe « khilaf al-waqi'a », ce qui est le contraire de la réalité. Et donc, cette phrase que le professeur Hassan a prononcée, « Ma kana li nabiyin an labisa la'matahu an yada'aha hatta yahkum Allahu baynahu wa bayna aduwi » Il n'appartient pas à un prophète qui a mis son armure, de la délaisser, de la déposer, après, tant qu'Allah n'a pas jugé entre lui et son ennemi. Non. C'est pour nous expliquer la détermination. Non. Et autre chose à laquelle on peut s'intéresser, c'est ce qui se passe aussi à Médine. On a parlé du professeur Hassem, sa journée, comment elle a été, comment elle s'est déroulée, il a sur le janaza, etc. Mais on peut prendre la famille de Malik ibn Amr. Ils sont concernés par la mobilisation générale pour Uhud et ils perdent leur père. La femme, elle perd un mari. Les enfants perdent un père. Les frères perdent un frère. Ils doivent l'enterrer et en même temps penser à comment défendre la ville de Médine. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla éprouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il éprouvait les gens qui étaient proches du professeur Hassan et qui suivaient le professeur Hassan. Comme il peut nous éprouver, nous, parce qu'on a décidé d'être dans le din, dans la religion. Souvent, les gens, quand ils ont les épreuves, Shaitan vient et dit « Zahma, t'es proche d'Allah, toi, avec toutes ces épreuves qui s'abattent sur toi. » Bien justement. Et là, nous, quand on étudie la vie du professeur, ils sont partis à Uhud, voilà, quelques coups d'épée, cling, 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 et c'était fini, ils sont rentrés. Il s'est passé des choses, ils étaient éprouvés. On peut donner donc l'exemple de cette famille. On peut donner l'exemple de Hamdalat ibn Abi Amir, radiyallahu anhu, qui avait deux bonnes raisons de ne pas participer à cette bataille. Je n'ai pas dit deux raisons, deux bonnes raisons. Deux, et elles sont bonnes ces raisons. Personne ne lui en aurait voulu. La première, c'est que son père était dans le camp en face. Et il pouvait prendre cette raison pour dire « Je vais me retrouver face à face avec mon père, à m'entretuer avec mon père. » Ce n'est pas ce que l'islam me demande. Et la deuxième raison, c'est que c'était... Il venait de se marier. Alhamdulillah. Il venait de se marier, c'était, ça allait être ce soir-là, ça allait être sa nuit de noces. Et comme on va le voir, nous, avec les préparatifs et tout ça, ils vont sortir de la ville de Médine pendant la nuit. Et lui, il pense pas qu'il ne peut pas partir ou là. C'est pas ça, lui, il pensait qu'il y avait encore le temps. Parce que finalement, il a vu que l'armée n'était pas partie, donc il pensait que c'était reporté au lendemain. Et il entend pendant la nuit, alors que c'est sa nuit de noces, qu'il est pour sa première nuit avec son épouse. Et il entend la sortie de l'armée, la mobilisation, c'est tout, on part. Le professeur Hassan vient de décréter qu'on part maintenant. Et le professeur Hassan, ces informations-là, il ne les donnait pas. Il disait rendez-vous à tel moment, et ensuite il savait qu'il pouvait y avoir des espions, des informateurs. Donc, pour tromper l'ennemi, finalement, il ne partait pas tout de suite, et il partait plus tard, mais il l'annonçait à la dernière minute. Allez, on lève le camp, on y va. Il informait que les plus proches de ses compagnons pour organiser avec lui. Et donc, Hanfala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu, à ce moment-là, il ne s'est pas posé la question, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Nous, si on était à sa place, bah, c'est tout. « Wakafallahu al-mu'minin al-qital. » J'ai d'autres choses à faire. Lui, à aucun moment, cette idée lui est passée par la tête, subhanallah. Lui, la seule question qu'il s'est posée, c'est est-ce que j'ai le temps de faire le ghusl ou pas? Est-ce que j'ai le temps de me laver ou pas? Ajib. Et il s'est dit, si je me prends le temps de me laver, je risque de rater l'armée. Et hors de question que je rate l'armée. Et donc il a pris, il s'est saisi de sa monture et il est parti. Il a pris son arme et il est parti, il les a rejoints. Le professeur Hassan le surnomme comment ? Rassil al-Malaika, le lavé par les anges. Parce qu'il va perdre la vie, il va tomber en martyr dans la bataille de Uhud, alors qu'il vient à peine de se marier. Et il n'aura pas fait Ghusl al-Janaba. Le professeur Hassan va dire, va expliquer, il y a parmi vous un homme qui est tombé, plus tard après Uhud, il va leur dire, il y a un homme qui est tombé à la bataille de Uhud. Et voilà ce qui lui est arrivé, voilà ce qui lui est arrivé, etc. Et c'est les anges qui l'ont lavé. Naam, à qui on a affaire? Alors, ce n'est pas n'importe qui ces gens-là, ces compagnons. Qui connaît Hamdallah? Qui a déjà entendu parler de Hamdallah? Il n'a pas fait grand-chose en termes de quantité. Mais juste ça, on ne connaît que cette histoire de lui. On ne connaît pas grand-chose de sa biographie. On ne connaît que ça. Et c'est largement suffisant pour savoir à qui on avait affaire. Ces gens étaient prêts à tout pour défendre le professeur Salem et pour défendre cette religion. Et même les autres religions d'ailleurs. Et quand ils se battaient les musulmans, c'était pour défendre leur liberté religieuse et celle des autres. Et donc ça donne aussi un exemple de ce qui se passait. Il y avait des gens qui mouraient et en même temps ils devaient penser à l'armée. Des gens qui venaient de se marier et en même temps ils devaient penser à l'armée. Et il y a aussi Abdullah ibn Haram. Et Abdullah ibn Haram, là c'est le summum dans les exemples qu'on peut donner sur les demeures de Médine. Et lui aussi va être amené à prendre une décision. Mais ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك.